Bonjour, vous écoutez FM Plus, 91 FM à Montpellier. C'est le troisième numéro de l'émission Le Fil du Fer. L'actualité plus ou moins actuelle, des projets en tout genre et des chemins de vie. Your Heart Collection Stands for More. Une possible traduction. Votre collection d'art représente bien plus. Elisa Ziegler, vous avez suivi une formation aux Beaux-Arts, aux États-Unis, à Amsterdam, à Avignon. Vous êtes une artiste contemporaine, vous peignez, mais pas seulement. Nous l'entendrons durant notre conversation. Vous avez 48 ans, vous êtes née à New York, vous habitez Montpellier, vous êtes une franco-américaine, bilingue et biculturelle. Votre chemin de vie vous amena en 2014 à fonder Art Needs Women, l'art nourrit les femmes. En France, votre fibre artistique, mais aussi sociale, mais aussi féministe, logiquement humaniste, s'exerce dans plusieurs domaines qui vous tiennent à cœur. Nous y reviendrons. Cependant, et d'abord, parlons un peu de vous. Bonjour Elisa.
Bonjour, merci pour cette invitation.
Partons de là. Dans quelle langue rêvez-vous ? L'anglais, le français, une langue métissée de ces deux langues, peut-être ?
Alors, j'ai commencé à apprendre le français à partir de l'âge de 12 ans environ. Et ça a beaucoup évolué. Au départ, je ne rêvais jamais en français. Après, je faisais des rêves où je parlais français, mais je ne comprenais rien. Et c'était assez troublant. Puis finalement, ça peut être les deux en même temps ou l'un ou l'autre. C'est vraiment, à vrai dire, je ne me pose pas la question au réveil. Je ne sais même plus en ce moment s'il y a trop de différences. Ça peut être les deux.
Comment définiriez-vous le biculturalisme et son impact dans votre vie ? Comment se traduit ce métissage culturel dans votre identité ainsi que dans votre pratique artistique, puisque vous êtes peintre, mais pas seulement?
Alors, comme je suis new-yorkaise, donc vraiment mon fils, il est cinquième génération du même quartier, de downtown Manhattan. Et donc, on s'identifie vraiment tout d'abord comme new-yorkais et de ce quartier même. C'est les gens qui étaient de uptown qui étaient des étrangers à l'époque. Et on vit un multiculturalisme depuis plusieurs générations. Donc, être française ou parler plusieurs langues ou avoir des amis d'origines différentes, ça nous paraît tout à fait naturel, ce qui nous donne une grande stabilité aussi pour se déplacer à l'étranger.
Parlez-nous de votre vie new-yorkaise. Moi, j'ai très envie d'entendre, de vous entendre parler de l'enfance dans le quartier où vous avez grandi, downtown Manhattan, Greenwich. Donc, c'est un lieu urbain, légendaire, où on y trouve des artistes avec une vie bohème, où vous avez peut-être trouvé le fil de votre vie future, où vous avez commencé peut-être à agir pour les autres. Alors
Bon, c'était très utopiste. Dans les années 70, la ville était en faillite. Donc, c'était une ville qu'on considérait comme étant très dangereuse. Donc, on avait l'impression qu'il fallait faire attention. On a appris à vraiment rentrer le soir tard, en sortant déjà les jeux de clés pour ouvrir la porte, en regardant bien à gauche, à droite. Enfin, on a grandi dans une ville, au départ, vraiment dangereuse. Après, ça a bien évolué. Et la ville s'est épanouie au niveau culturel. Il y avait en même temps du graffiti partout dans la ville. Qui nous donnait un peu la pêche aussi. C'était fait d'un esprit vraiment d'une expression très positive à l'époque. Et puis, aussitôt, on rentrait dans une galerie d'art et on tombait sur les peintres américains, dans Basquiat, et puis même dans les musées, il y avait encore les peintres abstraits de l'époque des années 50, qui étaient des New-Yorkais aussi. Et donc entre Rothko, de Kooning et toutes ces peintures-là, et puis en sortant dans la rue, en tombant sur les graffitis, on baignait vraiment dans un univers de peintres, de couleurs et d'expressions libres. Ça motivait vraiment, c'était très chaleureux et très sympa.
Est-ce que vous pourriez nous raconter, nous décrire un ou deux souvenirs fondateurs pour vous qui datent de cette époque, de votre enfance, de votre adolescence à New York ? Et pourquoi ces souvenirs sont-ils marquants?
C'est-à-dire, donc, enfance, ça comprend beaucoup d'années, et souvenirs, ça
Si,
comprend
là,
beaucoup de
le
choses.
souvenir, là, on vous dit, voilà, qu'est-ce qui vous a marqué des années de 70, 80 à New York, vous, dans votre vie?
Alors, on peut parler, par exemple, des défilés de Halloween qui démarraient, parce que ça, on ne le sait pas, mais au départ, c'était vraiment une petite fête de quartier dans Greenwich Village. Et petit à petit, ça attirait de plus en plus de monde, les gens se déguisaient, c'était une expression très créative encore. Et mon père, qui est musicien, il jouait aussi de la batterie, la percussion brésilienne avec un groupe de Brésiliens. Je ne suis pas du tout brésilienne, mais c'était pas grave. C'est ça le multiculturalisme dans les grandes villes à l'époque. Et puis donc aujourd'hui, ça, bah, c'est énorme le Halloween Parade à New York. C'est le défilé de Halloween. C'est vraiment quelque chose qui est devenu une grande production à l'échelle de Disney. Hein. Et donc c'était chouette de voir ça quand même s'épanouir.
Ah, j'imagine que ça devait être extraordinaire de passer une enfance new-yorkaise, quartier de Greenwich. Mais il y a un côté sombre à New York. Vous m'en avez parlé plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 enfants, des filles, qui sont SDF à New York. En 2014, vous m'avez dit que femmes et enfants, le nombre de femmes et d'enfants est en rapide augmentation en ce qui concerne le nombre de personnes sans domicile fixe et que femmes et enfants ne mangent pas à leur faim. On ne s'imagine pas ça à New York. C'est sans doute la ville la plus riche au monde. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous en dire là de ce New York aujourd'hui?
Effectivement, c'était vraiment choquant d'apprendre qu'il y avait, moi, actuellement, l'année dernière, on m'a dit qu'il y a encore 10 000 filles SDF à New York. Et en 2014, quand j'ai commencé un projet d'art contemporain que je continue aujourd'hui, j'ai appris que ben, les femmes et les enfants étaient parmi les démographies qui accroissaient les plus rapidement parmi les SDF dans ma ville. Et on sentait vraiment cette précarité. Et comme on a été élevé dans la créativité, ben, c'était tout à fait normal qu'on cherche des solutions aussi.
Et vos solutions, j'imagine que ça doit venir aussi de l'éducation. J'ai appris que vos parents vous avaient inscrite dans une école Quakers qui a été fondée par des Quakers, qui s'appelle Friends Seminary. Et j'aimerais savoir, qu'avez-vous retenu de ces méthodes d'apprentissage, de la vie, du regard que portaient les enseignants sur vous, sur votre personnalité, sur votre identité? Et quel est le résultat dans votre propre expérience? Et puis aussi peut-être parce que vous êtes une maman, qu'est-ce que vous transmettez de cette éducation dans cette école Quaker à votre fils?
Son papa a fait la même école aussi, c'est rigolo. Donc on s'est rencontrés à une réunion de classe de Friends Seminary et peu de gens étaient Quakers dans cette école. Donc déjà, une école privée downtown Manhattan, c'était pas forcément une école pour la communauté Quaker, mais c'était pour les gens qui étaient prêts à accueillir tout le monde. Après, concrètement, il n'y avait pas grand-chose qui nous reliait à la religion, mais il y avait certains repères quand même. On était obligé de faire quelque chose pour les autres. Donc moi, j'aidais les enfants, par exemple, à apprendre à lire une fois par semaine. Et on a appris aussi à se mettre ensemble pour une petite demi-heure de silence. Mais dès l'âge de 12 ans, il y a même des enfants plus jeunes dans une salle, voilà, magnifique, très sobre, avec une belle lumière, en étant ensemble comme ça, une demi-heure en silence. Et donc ça m'a énormément appris sur la possibilité d'agir au niveau humanitaire et de, enfin, la place des valeurs humanistes surtout.
Oui, je crois que c'est un qualificatif que vous défendez, que vous voulez porter, c'est celui d'humaniste. Peut-on arriver à définir ce que peut être une New-Yorkaise d'une part et une New-Yorkaise vivant dans le sud de la France à Montpellier de l'autre? Quelles sont les différences avec le reste des États-Unis, New York, et puis le reste des États-Unis?
Alors, je suis personnellement très dépaysée quand je vais dans le New Jersey. Et comme je disais plus tôt, quand petite, on considérait que Uptown, c'était dépaysant. Il fallait presque un passeport pour aller à Brooklyn à l'époque. On était à la fois tout à fait international, mais vraiment du quartier. Aujourd'hui, je suis dépaysée aux États-Unis, même plus qu'à Montpellier, je dirais.
Oh, de quelle manière?
Parce que New York, c'est une ville étudiante au départ. Il y a, pareil qu'ici, il y a des mouettes, il y a la mer. C'est une ville au départ très latine aussi, très chaleureuse, très commerçant. Donc, élever mon fils ici, je trouve tout de suite mes repères. C'est assez facile avec les restaurants, les petites boutiques de... les étudiants, et puis, mes gens se disent bonjour. Moi, j'ai grandi aussi dans mon quartier, c'était comme ça.
Et donc, aujourd'hui, New York n'est plus New York, celle que vous aviez connue. On a discuté tout à l'heure, et vous m'avez parlé peut-être de la culture de la peur que l'on trouvait à New York maintenant, parce que les New Yorkins seraient en minorité maintenant dans la ville.
Alors, pas forcément, je dirais, peut-être que je me suis mal exprimée, mais... Non, les gens ont la pêche quand même à New York. Et on est habitué à une grande diversité. Après, c'est vrai que les artistes et les familles se déplacent rapidement parce que ça devient hors de prix. Et même si c'est une ville d'étudiants, les étudiants payent 100 000 $ par an pour faire leurs études à New York. Donc, ça fait augmenter aussi les prix. Effectivement, la culture américaine s'installe comme jamais auparavant à New York. On n'a plus tellement l'ambiance qu'on avait. Après, ça reste une ville où il y a une très bonne énergie. Vraiment. Moi, j'irai en week-end là-bas, ne serait-ce que pour ça. On peut encore vraiment bien manger. Il y a plein de choses à voir, à faire. Et c'est reste quand même une très belle ville.
Vous avez obtenu la nationalité française dans les années 90. Vous êtes montpelliéraine depuis 2 années. Quel est votre regard sur la France et sur la ville de Montpellier?
Même mon fils, il remercie vraiment tous les jours. Il est tellement reconnaissant de sa nationalité française. On est trop ravis d'être ici. Enfin, c'était pas exactement prévu, mais finalement, on est bien tombé. Et en plus, avec tous les changements qui se passent en ce moment aux États-Unis, on est plus que jamais ravis d'être ici en France. Et en plus de pouvoir contribuer à la culture. J'ai un enfant qui chante la Marseillaise en marchant dans les rues. C'est vrai. Et même moi, je pense qu'il y a une qualité de vie ici. La qualité de l'enseignement, couverture maladie qu'on n'a pas aux États-Unis. Enfin, je pense que j'aurais beaucoup de difficultés à mettre en place la belle vie que j'ai ici, là-bas. Donc, je suis surtout très reconnaissante.
Donc, c'est le moment de passer le moment musical avec le groupe new-yorkais post-hardcore Rival Schools, la chanson Good Things, et votre frère Sam Singler y est batteur.
inside your company.
Vous êtes toujours sur Radio FM+, 91 FM à Montpellier. Vous écoutez le troisième numéro du Fil du Fer. Son invité est Elisa Ziegler. Elisa, donc nous venons d'entendre le morceau. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Good Things?
Alors, Good Things, c'est une chanson qui dit que les bonnes choses vont nous arriver. Voilà, c'est Good Things Are Coming Our Way. Et c'est une chanson faite par le groupe Rival Schools, dans lequel mon frère jouait, avec ses amis, dont Walter, qui fait partie du groupe Quicksand, maintenant, qui fait beaucoup de tournées en Europe. Et c'est un ami, il like mes images sur Insta, donc voilà, je lui rends le bâton, c'est une bonne chanson.
Elisa, je rentre de quelques années à vivre et travailler à New York. J'ai été frappé par la conscience sociale des États-Unis, pays aujourd'hui politiquement coupé en deux, entre les partisans de Donald Trump et les autres. New York est la ville des superlatifs quand on réfléchit aux écarts dans la société US. Durant mon séjour, j'ai vu une passion états-unienne pour l'humanisme, les idées, les débats et le combat pour des valeurs et des principes. Que cela soit du côté des progressistes ou bien des conservateurs. J'ai vu 500 000 New-Yorkaises et New-Yorkais manifester pacifiquement et de façon créative le long de la 5e avenue à la suite de l'élection de l'actuel président des États-Unis d'Amérique. Comment définiriez-vous l'humanisme états-unien dans un pays où faire grève, par exemple, n'est pas un moyen de lutte ou d'information pour la population? Comment est-on humaniste aux États-Unis? Les valeurs que l'on défend, quelles sont les valeurs américaines que vous souhaitez défendre?
Les États-Unis, c'est énorme hein, comme endroit. Donc, je pense que la France est la taille du Texas. Quand on parle quand même des États-Unis, il faut reconnaître que historiquement, ça a été même divisé dans 11 zones culturelles différentes. Je suis vraiment pas bien placée pour parler de la culture américaine, bien que je suis américaine. Et donc c'est avec beaucoup d'humilité que j'aborde la question. Maintenant, on regarde comme tout le monde sur CNN, etc., tout ce qui se passe et puis on s'y retrouve. C'est vrai que New York, c'est pas du tout une ville qui a voté pour Trump. Je pense qu'on était à 90% à ne pas voter pour Trump. Donc c'est tout à fait normal que les gens aient envie aussi de s'exprimer, d'exprimer leur vision de l'avenir. et de la culture actuelle. Et donc, bah, je suis contente si les manifestations ont été pacifiques.
Elles ont été et très créatives. Pour quelles raisons prenez-vous la parole en tant que femme, qu'artiste, conscience humaine aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qui vous a amené à vous dire bah, il faut que...
Oui, très honnêtement, j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai fait Cooper Union à New York, où déjà à l'époque, il y avait des conférences organisées par l'école pour parler... de la manque de reconnaissance des étudiantes femmes par les profs, l'intimidation qu'elles subissaient au sein des écoles pour subir au code masculin. Donc ça, c'était très tôt dans les années 90. Après, c'est purement pragmatique, quoi, parce que quand on regarde les chiffres, on sait que les femmes sont très peu représentées au niveau de la culture aux États-Unis. C'est plus facile pour moi de m'occuper un peu de ce débat et de m'occuper un peu de créer un nouveau terrain, cadre dans lequel je peux montrer mes œuvres, que de prendre un babysitter, aller traîner dans les vernissages en attendant que le prince charmant vienne me parler pour peut-être me proposer une exposition où j'aurai le privilège de partager 50% d'éventuelles ventes avec un système qui n'aide pas du tout les femmes. Ça me paraît ridicule.
Et donc, vous avez pris les choses en main et j'aimerais que l'on aborde Art Feeds Women. Je crois que je l'ai bien prononcé
Bravo.
Cette fois-là. Alors, dites-nous quelle est... la fonction de cet engagement et quel problème, vous l'avez dit, mais quel problème rencontrent les femmes et quelles solutions vous-même vous souhaitez apporter pour les femmes, qu'elles soient artistes ou non artistes, dans la société américaine et la société française, puisque maintenant vous habitez parmi nous depuis 2 ans, 3 ans.
Oui, eh bien, je dois dire que déjà en tant qu'américaine, je suis ravie de vivre en France, mais aussi en tant que femme. C'est génial d'être une femme ici en ce moment par rapport aux États-Unis. Et on n'a pas exactement les mêmes problèmes. Maintenant, nous, aux États-Unis, on a moins l'habitude de parler de la parité, surtout qu'en ce moment, la définition d'un homme et une femme, ça peut vraiment varier. C'est une question de dosage d'hormones parfois. Et on parle plutôt des codes masculins. Donc, quand on a les codes culturels qui ne sont pas les nôtres et on doit avancer vers un épanouissement économique, c'est compliqué parfois. Et donc, je prête ma voix quand même comme une fleur de plus dans un grand bouquet avec d'autres, d'autres initiatives qui sont en cours pour attirer l'attention vers cette inégalité et surtout l'occasion de faire autrement. Voilà.
Alors, faire autrement, on va expliquer peut-être un petit peu ce que c'est qu'une entreprise sociale, c'est-à-dire social business. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise sociale et quel rôle peut et doit jouer, selon vous, une entreprise sociale pour les arts dans un monde où acheter une œuvre d'art peut être seulement une stratégie de défiscalisation et non plus un geste fort de collectionneuse et de collectionneur éclairé?
Pour ma part, j'ai tout simplement un jour à 44 ans pris mes œuvres et je les ai encadrées et j'ai invité les gens à venir les acheter. Et je me suis rendu compte que c'était très facile. Et je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas fait plus tôt. Pourquoi est-ce que je pensais que je devais faire comme tout le monde et prendre un atelier et traîner dans les vernissages et attendre plein charmant, comme je le disais. Pourquoi ? C'était pas mon idée, c'était une idée que j'avais acceptée. Et j'ai invité les gens à venir dans un espace qui m'avait été prêté à Chelsea et les gens ont acheté les œuvres. Et au lieu de partager l'argent avec une galerie qui allait participer à un système qui n'aidait pas du tout les femmes et qui contribuait au problème actuel, faut le dire, j'ai partagé l'argent avec 2 femmes dans mon quartier que je connaissais, qui vraiment étaient en galère. Et c'était des femmes qui avaient pourtant fait des études. Elle avait 3 petits boulots, elle n'avait pas de couverture maladie, elles étaient plus âgées que moi. Elles avaient une pêche incroyable. Et elles m'avaient portée aussi, par nos échanges, par leur sourire. Et un jour, je me suis dit, mais voilà, c'est pas compliqué, je vais vendre mes œuvres et ben, je vais partager l'argent avec elles. Parce que ça me fait du bien de savoir que je contribue vers quelque chose qui a du sens pour moi. Et bien que ça n'allait pas faire un impact sur le plan économique énorme, parce que c'était quand même pas très cher mes œuvres à l'époque, c'était un geste qui me faisait du bien. Et la personne qui achetait mes œuvres en était ravie aussi. Et on était un groupe de petites femmes, voilà, qui faisaient ce projet ensemble et il y avait de la bonne énergie, quoi. C'était une très bonne ambiance. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de continuer comme ça.
Et donc ça continue, on verra un peu plus tard comment ça continue en France. Je suis assez curieux aujourd'hui, on entend parler, MeToo, le mouvement MeToo est en train de remettre sur la carte assez fortement le féminisme ou les visages du féminisme. Et j'aimerais savoir, vous, quelle est votre définition du féminisme ? Le féminisme, c'est un humanisme pour vous ?
Alors, pour moi, c'était tout simplement pragmatique. Hein. Je veux dire, exister, ça voudrait dire faire bouger des obstacles. L'obstacle, c'était la misogynie, c'était des codes qui m'empêchaient d'avancer, de faire ma vie. Et donc, il fallait que je m'adresse à ça de façon pragmatique. De la même manière, ce que je préparais les toiles avant de les peindre. C'était tout l'encadrement de l'œuvre, toute la mise en place de l'expression de mon travail. Et on pourrait même imaginer que ça vient après le mouvement Support Surface en France, où on considérait la peinture comme un objet. Et ben, qu'est-ce qui vient après ? C'est aussi s'occuper de toute la chaîne de production, y compris où va l'argent.
J'aimerais savoir plusieurs choses. D'abord, pourquoi est-ce qu'il faudrait investir, il faut investir dans les femmes ? Et ensuite, votre projet ici à Montpellier, quel est-il ?
Pourquoi est-ce qu'il faut investir dans les femmes ?
Oui, investir dans les femmes.
Parce qu'on fait 50% de la population déjà, donc est-ce qu'imaginons si on ne le faisait pas déjà, c'est assez problématique. En plus, parce qu'on est souvent aussi celles qui s'occupent non seulement des enfants, mais aussi des grands-parents. On rembourse les prêts mieux, souvent aussi. Donc, investir à titre financier, c'est aussi intéressant pour les banques, pour tout le monde. Enfin, après, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans les hommes. Enfin, je pense que c'est bien aussi. Mais il ne faut pas oublier les femmes. Et il faudrait qu'on considère, quand on voit une femme marcher dans la rue, qu'on la considère comme étant quelqu'un d'important.
Et votre projet à Montpellier, vous êtes en lien, je crois, avec l'association Étincelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, nous présenter votre projet actuel, ce qui est en train de venir ?
Oui, j'ai fait un événement à 7. Où c'était un bonheur de soutenir l'association Étincelle qui aide les femmes avec le cancer à plusieurs niveaux. C'est une association extraordinaire. J'ai eu moi-même l'occasion aussi de les connaître à titre personnel parce que j'ai eu un cancer aussi. Donc ça fait partie de moi et donc du coup de mon œuvre et de l'univers dans lequel je vis. Et donc, j'ai invité la présidente des chefs femmes entrepreneurs, les femmes chefs entrepreneurs, et aussi une association qui fait une résidence pour femmes artistes en Europe, et Étincelle. Et donc, ensemble, on a mis en place la fondation d'une possible nouveau réseau de femmes qui peuvent s'entre-soutenir dans l'art contemporain. Peut-être des collectionneuses, peut-être une autre manière d'aborder la question de la vente dans l'art contemporain, peut-être.
Très bien. Elisa, qu'est-ce que les projets, le projet Art Feeds Women, le projet que vous menez actuellement, a transformé ou approfondi chez vous ?
Alors j'ai vu que bah, les choses sont possibles, finalement, et que c'est nous-mêmes qui nous autorisent la possibilité d'avancer. Et c'est étonnant d'avoir attendu si longtemps. J'aurais pu faire ça à 25 ans. Et donc aujourd'hui, je me rends compte que bah, on peut faire des choses, et puis on doit faire des choses, parce que bah, si on ne le fait pas, qui est-ce qui va le faire? Et si ce n'est pas maintenant, bah, ça serait con. Donc aujourd'hui, il y a des problèmes auxquels on doit s'adresser aussi en tant qu'être humain. Et puis, bah, les artistes sont concernés. Donc, c'est tout à fait normal qu'on considère le contexte dans lequel on crée des choses.
Elisa Ziegler, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à visiter votre site ainsi que votre Instagram, Elisa-painting. Les sites se trouveront sur la page de FM+, dans l'onglet Le Fil du Fer. Au moment de nous dire au revoir, je vous laisse redire la citation que vous avez proposée pour éclairer notre conversation.
Alors, la citation, c'est « Your art collection stands for more ».
C'était Le Fil du Fer, où l'on comprend que la différence entre faire et ne pas faire, c'est faire. Chères oreilles, chers cerveaux à l'écoute, je vous dis à dans 15 jours pour notre émission numéro 4. D'ici là et bien après, n'hésitez jamais à passer le cap et osez.